grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse en direct ou en podcast. Il n'est pas motivé, elle manque de motivation, travail, c'est pour ton avenir. Des phrases bien souvent proférées par des parents désespérés, en plein désarroi face à une progéniture peu enthousiaste à l'idée de suivre un cours d'histoire ou bien de réviser une leçon de maths. Mais comment les motiver, ou plutôt comment les aider à se motiver? Quelles sont les clés de ce moteur interne qui peut déplacer des montagnes? Quels sont les freins à la motivation? Et qu'est-ce qui provoque la démotivation? Quelles sont les erreurs à éviter, celles qui empêchent le plaisir d'apprendre et le goût de l'effort? Quel est le rôle des adultes? Avec nous pour répondre à ces quelques questions, le consultant Philippe André et la psychopédagogue Brigitte Pro. Et vous, comment faites-vous pour motiver vos enfants? Quelle est votre méthode? Si vous êtes élève, dites-nous ce qui vous motive et ce qui vous démotive. Réagissez, témoignez au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. On attend également le témoignage des enseignants. Et voici un professeur de philosophie qui sait motiver ses élèves. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
De retour désormais le mercredi avec en main une ordonnance philosophique.
Oui, cette année j'avais envie chaque semaine de vous donner une petite ordonnance philosophique, de puiser chez les philosophes des conseils ou des idées, des phrases à méditer pour essayer de résoudre nos petits problèmes de la vie quotidienne.
Et j'attends ce matin votre regard de parents et de professeurs tout au long de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse.
Et à quelques jours de la rentrée, voici quelques clés pour motiver les élèves avec deux invités. Bonjour Philippe André.
Bonjour.
Vous êtes consultant en management et motivation et vous publiez chez Hachette « Réussir à l'école » sous-titré « Moins de stress, plus de plaisir ». Bonjour Brigitte Pro.
Bonjour.
Vous êtes psychopédagogue et vous avez notamment publié « Je suis pas motivé, je fais pas exprès, les clés de la motivation scolaire ». Et vous avez créé une méthode de motivation à destination des élèves. Qui s'appelle votre
qui s'appelle méthode. Bilan et itinéraire de motivation, BIM.
Comme BIM.
Voilà, c'est ça, BIM.
Pour le Robert, la motivation, c'est ce qui pousse quelqu'un à agir. Et pour le Larousse, c'est l'action des forces conscientes et inconscientes qui déterminent le comportement d'une personne. Et vous, c'est quoi votre définition, Brigitte Pro? C'est quoi la motivation pour
vous? De la motivation. Alors, la motivation, origine latine, moere, qui signifie se mettre en mouvement. C'est-à-dire un élève dans le cadre de l'apprentissage, dans le cadre scolaire, qui se met en mouvement, qui prend sa place, qui la cherche, qui la trouve, et qui effectivement s'affirme dans une envie effectivement d'exister, de pouvoir effectivement aller vers ses objectifs et de dire je, quoi. Hein, c'est vraiment l'émergence du sujet, en sachant que tout être humain dès sa naissance est motivé, puisque le désir d'apprendre est intrinsèque à l'humain, sinon il ne survit pas. Contrairement à certains mammifères, comme le poulain par exemple, le poulain se trouve sur quatre pattes au bout d'un quart d'heure. L'être humain, vous voyez à quel moment il apprend à marcher, il apprend à parler. Donc tout s'apprend chez l'être humain. Ça signifie que le désir d'apprendre est là, et quand il ne se trouve pas là, quand la motivation manque, eh bien il s'agit de repérer où se trouve le frein et où se trouve le besoin auquel répondre.
Votre définition de la motivation, Philippe André?
Alors, la définition sera à peu près la même, c'est de se mettre en mouvement, si ce n'est que là, il y a quand même une chose qui est intéressante à pouvoir approfondir, c'est qu'il y a deux façons de se mettre en mouvement. Il y a une façon si on est tiré, et la bonne motivation serait d'être tiré, d'avoir envie d'aller vers quelque chose. Et puis, il y a une autre façon de se mettre en mouvement, c'est d'être poussé. C'est-à-dire que certains parents vont avoir tendance à vouloir pousser, c'est-à-dire mettre une pression sur leurs enfants pour les faire avancer. Et là, on va s'apercevoir que c'est pas le même genre de motivation, que c'est pas le même genre d'efficacité et que certainement il y en a une qui dure pas vraiment à long terme.
Alors certains psychologues parlent de motivation intrinsèque, oui, et de motivation extrinsèque. Vous pouvez nous expliquer la différence, Brigitte Pro?
Oui, la motivation intrinsèque, c'est celle dont l'objectif est vraiment direct. Bon, par exemple, Max se motive pour l'histoire. Il est passionné par la guerre de 14. Et la motivation extrinsèque, eh bien, il y a derrière cette motivation pour l'histoire quelque chose qu'il va recevoir à Noël s'il a vraiment 14 en histoire, en quelque sorte. Ça peut être aussi même dans sa sphère à lui, tout simplement, se donner un objectif au-delà de l'histoire et du coup, se motiver effectivement par palier. Par exemple, il est passionné par l'armée et donc il sait très bien que l'histoire, c'est effectivement un passage obligé, mais il n'est pas forcément passionné par les cours d'histoire. Donc, la motivation intrinsèque, c'est vraiment celle qui colle à l'objectif et du coup, qui n'a pas besoin d'un autre objectif pour la servir, quoi.
Et les choses sont plus nuancées parce que les deux sortes de motivation, intrinsèque et extrinsèque, sont intriquées.
Oui, en permanence intriquée. Pour moi, on aurait tort de raisonner binaire, hein, là, c'est-à-dire dire cet élève se motive, oui, intrinsèquement, et l'autre se motive, oui, oui, extrinsèquement.
La motivation extrinsèque, c'est un peu la carotte, quoi, qu'on
oui,
agite
c'est ça.
Pour
c'est
que
extérieur.
L'enfant soit motivé.
Voilà, tout à fait. Et évidemment, tout ça est intrinsèquement lié, pour le coup, puisque c'est la loi de la vie, quoi. C'est complexe. Hein, on ne va pas, effectivement, couper les motivations en tranches de saucisson, en gros.
Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, Ali. Vous avez dit, tu travailles pour ton avenir. Et on pourrait penser que la carotte de la plupart des enfants, c'est de travailler pour son avenir. Parce qu'après tout, s'ils sont à l'école, s'ils sont là pour faire de bonnes études, c'est pour leur avenir. Or, il faut bien se dire une chose en tant que parent, c'est que leur avenir, il est tellement loin qu'il n'est pas du tout motivant. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va motiver l'enfant. Ce qui va motiver l'enfant, c'est certainement des choses plus proches. Pas forcément d'ailleurs qu'un cadeau. Moi, je pense qu'il n'existe pas d'enfants feignants, qu'il n'existe pas d'enfants qui peuvent pas avoir de résultats scolaires intéressants. Il n'existe que des enfants démotivés. Et la motivation, ça se fabrique, et ça se fabrique par les parents, grâce à la confiance qu'ils vont donner à leurs enfants, à la reconnaissance qu'ils vont donner à leurs enfants. Mais je pense qu'on va pouvoir... On va pouvoir aller plus loin sur ce sujet-là.
Le regard de Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas toujours égaux aussi face à cette question de la motivation, parce que après voilà 15 ans de lycée, j'ai travaillé dans des territoires et dans des milieux extrêmement différents, et j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu des facteurs sociaux de la motivation. J'ai l'impression qu'on n'est pas égaux face à cette motivation, et que oui, les parents ont peut-être une responsabilité, mais parfois c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait.
Alors effectivement, pour moi, c'est très complexe et ça dépend vraiment du contexte. Et le contexte, ce sont les parents, les enseignants, la CPE, le CPE, tout le contexte socio-éducatif, culturel, le pays où l'on se trouve aussi, évidemment. Et ça me paraît très juste, on est en pleine complexité. D'où l'importance que chaque acteur de la chose à l'école et dans les familles prenne sa place, prenne ce que j'appelle ces 50% en fait, hein, 50% pour l'élève, 50% pour l'adulte qui l'accompagne, et au milieu de tout cela, chacun son pourcentage. Et si tout le monde, par exemple, va dans le même sens, à un moment donné, ça va évidemment lui permettre un élan. Mais vous avez raison, c'est évidemment complexe, et la question de l'inégalité, elle est typiquement humaine, bien sûr, tout à fait.
Il y a quand même une chose qui reste quand même une constante, c'est que la confiance en eux des enfants va faire leur résultat scolaire. C'est que plus ils vont être confiants. Alors après, ça peut venir des parents, ça peut venir des professeurs, ça peut venir d'une propre confiance en soi. Certains enfants sont plus confiants que d'autres à la base, mais la confiance en soi et en l'école va faire les résultats.
Alors la confiance en soi centrale, hein, puisque c'est le fait de se fier à soi-même. Oui, cet exercice de maths, je vais le réussir, il est 10 heures, ça va, je me lance. Ou alors je ne me fais pas confiance, je regarde sur mon voisin auquel je fais plus confiance, et le surveillant me dit « tu es tricheur » et je récupère 2 heures d'école. Et tout d'un coup, il va y avoir évidemment un engrenage là par exemple. La confiance est centrale. Pour moi, dans ma pratique, particulièrement depuis 2 ans, la confiance, c'est vraiment la question des adultes. Beaucoup. Je propose que les adultes se fassent davantage confiance, osent davantage en fait, hein, prendre des dispositions pour assurer un contexte porteur, parce que aujourd'hui, vous avez parlé de l'avenir, que dit-on de l'avenir? C'est vraiment, hein, on a envie de rester sous sa couette, a priori, et aussi les adultes qui se trouvent dans cet espace de mutation profonde de la société, qui évidemment recherchent de nouveaux repères, nous sommes tous dans ce bain-là, à un moment donné, faisons-nous confiance pour avancer, et faisons confiance aux enfants, aux adolescents, pour avoir des ressources en eux qui peut leur permettre de se dépasser. Et franchement, j'ai des exemples fabuleux dans ma pratique, hein, d'enfants, d'adolescents avec des ressources internes. Si les adultes leur font confiance, ça change tout.
Vous avez des exemples ?
Oui, un exemple, oui, d'un enfant qui effectivement se faisait vraiment confiance alors que ses parents ne lui faisaient pas confiance. Mais ne lui faisaient pas confiance, je ne suis pas en train de les critiquer. Simplement, eux, dans leur travail, ils voient combien c'est difficile. Ils voient combien les repères éclatent de toutes parts, que rien n'est solide, on est dans des sables mouvants. Et du coup, ils répètent 10 fois par jour à leur fils, cet enfant-là, qui s'appelait Loïc, eh bien, travail, travail, travail. Or, lui, il ne faisait pratiquement que ça, travailler, et il se faisait confiance, il avait un projet. Et à un moment donné, le frein à sa motivation, c'était effectivement ce que lui disait sa mère en rentrant. Et elle pesait sur lui, encore une fois inconsciemment, parce que tout ça est très complexe, mais du coup quand je lui ai demandé, mais c'est quoi le frein là, il y a une démotivation, et pourtant tu te fais confiance, et il m'a dit, mais c'est ma mère. Alors j'ai dit, bon, ça veut dire quoi exactement, le comportement de ta mère? Et il me dit, vous savez, à la télé, j'ai vu qu'on portait 14 kilos de cartable sur le dos, mais moi je porte 65 kilos. Et il parlait de 65 kilos de sa mère. Alors c'était évidemment son comportement et pas la personne, mais elle était sans arrêt en train d'attendre des résultats et lui dire travail, alors que lui il avait bien l'intention de s'y mettre au travail à 17h.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, mais même une question un peu naïve, mais peut-être un préalable, c'est aussi pour certains, parfois, c'est leur faire comprendre que le sens de cette motivation. Parce
absolument.
Que après tout, pourquoi faudrait-il être motivé?
Oui. Très juste. La question centrale aujourd'hui dans cette société mutante, c'est le sens, en fait. C'est vraiment cette question-là. Du coup, si ça a du sens pour les adultes, à un moment donné, qu'est-ce qu'on transmet aussi? La question de la transmission qui a du plomb dans l'aile dans notre société, parce que beaucoup d'adultes n'osent plus tellement transmettre, ou en tout cas se disent, mais je transmets du positif, du négatif, je recule de 3 pas, j'avance. Enfin, avec certains de leurs enfants, certains parents, pour les motiver, en tout cas les aider à se motiver, bien sûr, doivent reculer de 3 pas, les laisser respirer, hein, avoir de l'espace. Avec d'autres, ils ont besoin d'être accompagnés très très serrés pendant 15 jours et après les laisser. Enfin, tout ça, c'est vraiment de l'aiguiser, quoi. Et là, vous prononcez un mot qui est central, le sens, et le sens pour nous tous. Regardez, le sens de notre présence aujourd'hui dans cette émission, à nous tous, là.
Et vous, quelles sont vos méthodes pour aider vos enfants à se motiver? Vous êtes enseignant, ben racontez-nous comment vous vous y prenez. Et puis, si vous êtes démuni face à votre enfant démotivé, et si vous êtes l'enfant démotivé en question, et ben n'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Claire Destacant, Clara Marliou et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission. À la réalisation, Stéphanie Texier. Allez, on écoute un titre de 1969. Cette année-là naissaient les chanteurs Ben Harper et MC Solar, et le président Eisenhower et l'actrice Judy Garland. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Yeah, to the Harlem Shuffle.
Oh,
Bob Earl interprétait Harlem Shuffle.
Mais il faut mériter les choses dans la vie. Il faut retrouver le goût de l'effort.
Grand bien vous fasse.
Mais c'est-à-dire que cette année, je suis motivé.
Sur France Inter.
10h21, comment motiver ses enfants à l'école? C'est la question du jour au 01 45 24 7000.
Ah bah tiens, justement, ça tombe très bien puisque t'es là. Est-ce que tu peux aller à la réunion de parents d'élèves de Soline qui est à quoi, 11h30?
Ouais. Tu peux pas y aller, toi, tu seras revenu des fournitures.
Écoute, c'est pas possible. Moi, j'ai déjà celle de Charlotte, j'ai le vaccin du petit, les fournitures à aller acheter, les livres à recouvrir, les étiquettes
c'est bon,
à coller.
C'est bon, je vais y aller. Ce qu'il me faut, c'est juste 2-3 heures avec Christophe, c'est tout.
2-3 heures. Attends, 2-3 heures pour faire quoi?
Oui.
Pour faire quoi?
Optimiser le travail de votre enfant. J'ai trouvé ça en librairie, il paraît que c'est formidable.
Ah, je connais ce genre de bouquin, c'est pourri.
Ah, c'est pourri? Parce que tu veux recommencer le même cirque que l'année dernière, toi? Les bulletins lamentables, les rendez-vous humiliants avec les profs.
Ah non, pitié, pitié, pitié.
Les soirées interminables à refaire tes devoirs, non. Les vacances ratées.
Non, je repasse pas les mêmes vacances que l'année dernière. Hein.
Ah bah voilà, t'entends ta mère? Faut absolument que tu sois coaché avant de rentrer en terminale. Je te rappelle que t'as quand même la chance d'avoir un père spécialisé dans la formation. Je t'attends dans ta chambre.
Extrait des Fais pas ci, fais pas ça. Petite réaction, Thibaut de Saint-Maurice.
Ça doit être terrible de grandir dans cette famille.
Philippe Indré, je rappelle que vous venez de publier Réussir à l'école. Quel est le rôle des parents, des enseignants, des personnels de la vie scolaire dans la motivation des enfants et des adolescents?
Alors, c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu faut bien faire la distinction entre les jeunes et les moins jeunes. On en parlait juste avant. Plus l'enfant va être jeune et plus l'influence des parents va être importante. Ça se voit très bien au niveau du primaire. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour s'apercevoir qu'un enfant qui est en primaire va revenir avec ses résultats scolaires et va les amener à papa et maman. Alors pourquoi c'est important? Parce que ce sont ces parents-là qui vont pouvoir donner à l'enfant la confiance nécessaire dans la scolarité pour pouvoir derrière avoir de bons résultats. On parlait du sens juste avant la pause. Et là, il faut vraiment se poser la question pourquoi? Pourquoi avoir une motivation pour l'école? Moi, je vais vous dire une chose, j'ai eu une double vie. J'ai eu une vie de très mauvais élève et j'ai une vie de très bon élève. Je peux vous dire une chose, c'est que d'être très mauvais élève, c'est hyper difficile à vivre. C'est-à-dire quand on est mauvais élève, se lever chaque matin pour aller à l'école, c'est difficile. Et si on veut que nos enfants soient bien dans leur peau, il vaut peut-être mieux qu'ils aient des résultats scolaires, peut-être pas extraordinaires, mais au moins corrects.
Brigitte Pro, je rappelle que vous êtes psychopédagogue.
Oui, je n'ai jamais rencontré un seul élève qui n'ait pas envie de réussir à l'école. La question pour lui, c'est comment je dois m'y prendre. Et pour certains qui, au cours d'une journée de classe, comprennent 30% du vocabulaire abordé, par exemple, ça pose question. Mais ils ont envie de réussir. Après, comment je m'y prends, qu'est-ce que ça veut dire, comment je peux me motiver, etc. Toutes ces questions-là, ce sont les leurs. Moi, je rencontre beaucoup d'enfants, effectivement, et d'adolescents malheureux de ne pas réussir, particulièrement au collège, par exemple, en classe de 4e, les garçons, dans le travail d'accompagnement, ils montrent vraiment leur tristesse alors qu'ils peuvent donner le change chez eux en disant « mais moi je m'en fiche pas mal du collège, d'abord c'est une prison » et avec leurs copains « non mais on va faire un concours d'heures de colle, c'est super » et c'est celui qui a le plus grand nombre d'heures de colle sur les 15 jours qui devient le chef du groupe, etc. Donc c'est vraiment difficile pour eux, ça touche leur narcissisme en fait. Et regardez, dans des situations de harcèlement, moi je compte parmi les élèves que j'accompagne des élèves qui effectivement subissent cela, on subit cela, et je vois par rapport à ce qu'ils font dans leur travail, à un moment donné, ils ont lâché prise, c'est-à-dire ça les met en situation de fragilité, et du coup, ils sont dans une dépendance. Alors si vous ajoutez la dépendance au smartphone qui les emmène ailleurs encore et qui leur permet d'oublier un peu, ils tentent de maintenir l'équilibre. Mais effectivement, en eux, il y a cette envie au moins de réussir à l'école.
Bonjour Jean-Marie, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute avec grand plaisir. Quelle est votre réflexion?
Voyez-vous, je vais être très très bref. Pour motiver, pour que les enfants réussissent, il y a deux mots qui s'appellent « encourager » et valoriser. On peut employer cette formule, la caresse de la parole peut entraîner les plus grandes motivations. Vous voyez, je suis ému. Hein, quand
non, allez-y, prenez votre temps, Jean-Marie.
Il y a une pédagogie qui devrait être mise en place et dont on parle peu, c'est la pédagogie de Célestin Freinet, qui était un grand pédagogue et qui, justement, jouait sur ses... Jouait, le mot est peut-être mal choisi, sur ses termes de valorisation, d'encouragement. Hein, c'est Célestin Freinet. Et ensuite, pour que les enfants réussissent à l'école... Il faut absolument de la formation. Formation, on ne dira jamais assez que la formation des enseignants, même ceux qui sont doués au départ, ont besoin de formation.
Brigitte,
voilà ce que je voulais dire, sans merci. Faire de plus longs discours.
Merci beaucoup, Jean-Marie. Brigitte Pro va vous répondre.
Oui, vos mots, Jean-Marie, sont centraux. Hein, encouragement, valorisation. Dans notre société, j'ajouterais le fait de les sécuriser, puisqu'ils se sentent beaucoup insécurisés. Il y a beaucoup de pression sur eux. Ils portent lourd. Hein, il y a toute une société. Ce sont des enfants désirés pour lesquels il y a une forte attente aussi hein, d'une société d'adultes entière. Et effectivement, vous pointez là la question de la formation des enseignants. Pour moi, c'est central. Je suis de mon côté formatrice hein, d'enseignant. Pour moi, il s'agit de la formation, effectivement, vous parliez de pédagogie Freinet, oui, pour que les élèves soient mis en action dans leurs apprentissages, en situation d'apprendre et pas se trouver dans un système vraiment suicidaire qui est le cours magistral pendant 55 minutes. Quand on est en cinquième, en quatrième, on ne tient pas. Donc, effectivement, à la pédagogie active. Hein. Et puis, pour moi, il y a un grand champ de formation qui manque aujourd'hui, c'est la formation des enseignants aux compétences relationnelles et psychosociales. Et là, il y a vraiment une hétérogénéité, une différence d'un établissement à l'autre quant à hein, ces formations énormes. Et à mon avis, tant qu'on n'ira pas sur ce champ-là, la classe pourra demeurer finalement un endroit où il peut se passer le pire et le meilleur en fonction des personnes et de leur mal-être ou bien-être aussi, quoi. Surtout seul, un adulte seul avec les élèves. Enfin, il n'y a du coup pas de distance. Quoi.
Philippe André.
Alors la valorisation, c'est aussi le rôle des parents. C'est ça qui est très très important aussi à voir. Moi, lors de mes conférences, je le dis souvent aux parents, je dis, on a tendance, pensant qu'on va booster nos enfants, à leur mettre une pression. Vous parliez de pression, à leur mettre une pression. Or, avant tout, le premier rôle du parent, c'est de valoriser son enfant dans ses apprentissages scolaires. Parce que c'est ce qui va lui permettre derrière d'avoir l'énergie nécessaire pour aller en cours, pour apprendre dans de bonnes conditions. Un peu moins de pression, un peu plus de valorisation. Je dis que ça, c'est déjà une très bonne règle pour les parents.
Thibaut de Saint-Maurice. Oui, il y a un truc que j'ai expérimenté en classe, moi, et qui fonctionne assez bien sur ce registre de la valorisation. C'est la valorisation, en fait, par la classe elle-même, en fait, par les camarades eux-mêmes. C'est assez simple, en fait. Il suffit de proposer un exercice et de présenter à la classe les meilleurs résultats sur cet exercice. Et c'est pas toujours les meilleurs élèves, en fait. C'est-à-dire que c'est là où le prof intervient, c'est qu'il ne choisit pas toujours que les meilleurs élèves qui ont fait le mieux l'exercice. C'est aussi d'aller chercher chez un élève qui a un peu moins confiance, etc., un bon exemple, une bonne référence, etc. Et là, ils sont extrêmement sensibles au regard de leurs camarades de classe et à cette valorisation qui va venir d'eux-mêmes. C'est-à-dire quand, voilà, de leur dire, voyez, ce qu'il a fait, c'est bien, qu'est-ce que vous en pensez? Et d'eux-mêmes, ils reconnaissent que, oui, ce que le camarade a fait, c'est vachement bien. Cette valorisation interne des pairs, en fait, elle fonctionne très bien, j'ai l'impression.
Bonjour Philippe, bienvenue.
Oui.
Nous vous écoutons, Philippe.
Eh bien, écoutez, je disais donc à la personne que j'ai eue au téléphone avant que j'étais donc enseignant en éducation physique et sportive et que dans bien des cas, malheureusement, même s'il y a a priori des sources de motivation qui devraient exister pour tous les élèves, entre autres, je précisais pour le baccalauréat, certains n'ont pas ça suffisamment de toute façon pour eux, comme justement étant un moteur. Et que quelquefois, nous nous trouvons bien démunis face à des élèves qui n'ont pas envie de se mettre en action, je vais dire ça comme ça, et en particulier dans ma discipline, et j'expliquais qu'évidemment, il faut se mettre physiquement en action, et que ça se décrète pas. Et il n'y a pas une baguette magique, malgré tous les efforts que nous, enseignants, nous pouvons faire, malgré toute la gentillesse, la bienveillance, etc. On a des élèves qui, quelquefois, sont totalement ailleurs, quoi. Mmh. On va dire que même le bac, ils s'en foutent, je peux dire ça comme ça, mais c'est pas un jugement, hein, évidemment, ouais, que je prononce. C'est qu'ils ont d'autres soucis, d'autres préoccupations, des fois aussi. Et quelquefois, peut-être sont-ils au lycée pour essayer peut-être de faire plaisir à leurs parents. Ça peut arriver aussi, dans certains cas. Mais voilà, et nous sommes quelquefois donc face à une situation de blocage, ou en tout cas d'incapacité à se mettre en marche. Quoi.
C'est très intéressant, c'est très intéressant, Philippe, ce que vous nous dites, parce que Brigitte Pro, vous le martelez, hein, ça ne se décrète pas, la motivation.
Tout à fait. Oui, la motivation ne se décrète pas. Évidemment, ça se saurait. Hein, la seule personne qui décrète une motivation, c'est le gourou dans une secte, hein, puisque voilà, les personnes sont dépendantes de lui. Alors que la motivation interne, évidemment propre à chacun, ne se décrète pas. Du coup, là, en tant que professeur de PS, c'est le corps qui est en jeu. Et là, le corps, dans notre société cartésienne, il y a vraiment une question pour la place de l'éducation physique et sportive dans nos établissements scolaires. Qu'en disent vos collègues, la place du corps dans les apprentissages, il y a cela. Et le corps, avec toutes les images qu'on nous balance, excusez-moi le terme, en termes de modèle, surtout au collège, à l'adolescence, quand il faut effectivement mettre son corps en mouvement, avec dans la classe une mixité par exemple, c'est pas si simple. Et les professeurs de PS en parlent beaucoup, effectivement.
Merci beaucoup, Philippe, d'être intervenu. Bonjour Didier Pleu.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Psychologue clinicien bien connu des auditeurs de Grand Bien Vous Fasse. Alors, dans votre cabinet en Normandie, vous recevez des enfants et des adolescents démotivés. Alors évidemment, chaque situation est singulière, mais existe-t-il tout de même, mon cher Didier, des points communs?
Oui, oui, tout à fait. Alors, je voudrais pas jouer les croque-mitaines parce que j'ai deux remarques sur tout ce que j'ai entendu.
Allez-y.
Et il est bien sûr incontournable d'avoir une attitude bienveillante avec un enfant pour, on l'a vu, l'encourager, le valoriser, le réconforter, le protéger. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai aussi entendu le témoignage de votre enseignant EPS qui disait, mais il y a aussi des enfants, des ados qui n'en ont rien à faire de l'école, hein, parce qu'ils n'ont pas envie. Et c'est là que je dis toujours, non, être bienveillant, d'accord, mais il va falloir aussi être un peu contraignant, parce que je crois que quand il y a un problème de motivation, il y a surtout un problème émotionnel chez l'enfant. Alors, il y a des enfants qui sont tendance anxieux, dévalorisé, et je crois que tous ceux-là ont besoin de l'éducation bienveillante, de tout ce qui est dit avant sur l'autonomie, pas trop de pression, etc. Mais on oublie souvent ceux que j'ai toujours appelés mes intolérants aux frustrations, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas envie de faire des choses qui nécessitent un effort, où il y a d'autres présents, où il y a des adultes qui ont une certaine autorité, etc. Et c'est pour ça que dans tout le travail que j'ai fait, moi j'avais des petites recettes, des conseils. Déjà pour les tout-petits, j'avais même, alors je vais faire de la pub, mais j'avais même fait une petite bande dessinée qui s'appelait Zoop à l'école, où on disait aux parents, mais écoutez, on va alterner les histoires sympathiques du soir avec des histoires pour les enfants qui rentrent en maternelle, des histoires d'école, pour que justement l'enfant apprenne un petit peu la réalité pas toujours plaisante de l'école, la présence des autres, les petits apprentissages qui seront pas faciles, les rythmes à la cantine, les rythmes de sieste, vous voyez, pour inclure un peu cette histoire de il faudra accepter la frustration à un moment donné. Et puis pour les plus grands, vous savez bien que c'est mon dada, oui, la présence parentale est nécessaire pour augmenter la motivation des enfants et des ados, surtout parce que il faut qu'ils retrouvent un objectif de vie professionnelle, lier le contenu scolaire à l'avenir, il faut qu'ils aient des habitudes de travail tous les jours, et bien sûr il faut des interventions, je dirais, un peu autoritaires au niveau de supprimer les écrans à un moment donné, mais il faut aussi donner des méthodes de travail. Je crois qu'il faut que les parents soient très présents et non pas laisser les adultes autonomes, leur donner une véritable discipline de vie. Alors je ne sais pas si je suis clair, mais ce que je veux dire par là, c'est attention, le manque de motivation des enfants et des ados n'est pas la même selon la personnalité de l'enfant et de l'ado. Et je pense qu'on a beaucoup de mal, et c'était le témoignage de votre enseignant, avec ceux qui n'ont simplement pas envie, non pas parce qu'ils ont peur, non pas parce qu'ils se sentent découragés, mais pas envie parce que ça les barbe, il n'y a pas d'intérêt. Et cela, faut travailler leur acceptation de l'effort, de la présence des autres, des habitudes de travail, des routines, d'une hygiène de vie.
Restez avec nous, hein, Didier Pleu, on verra tout à l'heure ce que vous conseillez aux enfants et aux parents en matière de motivation. Thibaut de Saint-Maurice, tous les mercredis, vous nous proposez donc une ordonnance philosophique.
Oui, Ali, parce qu'on s'en rend compte hein, depuis le début de notre discussion de ce matin, pas facile de motiver les autres et pas facile pour chacun de nous de se motiver donc tout le temps, en permanence, sans découragement ni mauvaise foi. Alors, il y a l'envie hein, qu'on a de faire quelque chose. Puis, vous savez, comme chantait Johnny, hein, l'envie d'avoir envie. Voilà, l'envie de s'y mettre, l'envie de s'y tenir, de continuer à vouloir, alors qu'en même temps surgissent d'autres envies. Comme ces petites voix, vous savez, ces autres petites voix dans nos têtes hein, qui disent bah, « tu pourrais t'arrêter, tu pourrais finir demain, c'est déjà bien ce que t'as fait, hein, donc vas-y, repose-toi ouais. ». Alors les symptômes sont clairs, hein, nous savons de quoi nous avons envie, mais nous ne nous découvrons pas toujours à la hauteur de nos envies. Nous sommes tiraillés, notre volonté diminue et devient mauvaise, et puis l'on ne fait finalement plus grand-chose.
Alors comment, Thibaut de Saint-Maurice, soigner cette maladie de notre volonté ?
Eh ben, en arrêtant justement de croire à la toute-puissance de notre volonté. Et comme c'est pas facile, eh ben, je vous conseille de méditer matin, midi et soir en dose d'attaque, et puis une fois de temps en temps ensuite. Hein, cette phrase du philosophe Spinoza, tirée d'une lettre à son ami Schuller, « Les hommes sont conscients de leurs désirs, mais ignorants des causes qui les déterminent. » Alors c'est tout simple, mais c'est un rappel salutaire. Ça veut dire, nous savons ce que nous désirons, et donc nous pensons que c'est à notre portée, mais nous ne prenons pas le temps, en fait, de connaître les causes qui nous déterminent et qui vont faire que notre objectif va être bien difficile à atteindre. Spinoza nous rappelle que nous sommes déterminés par des causes. Notre corps, par exemple, est déterminé par la fatigue ou la faim. Notre esprit, par la joie ou la tristesse. Notre vie est déterminée par tout un tas d'habitudes et de constructions sociales et culturelles. Et donc, si on veut atteindre un objectif, faut d'abord le concevoir comme l'effet d'une cause et travailler sur la cause qui va produire cet effet. On ne peut pas, en tout cas, aller plus vite que la musique. Nous n'avons pas de volonté toute puissante. Et en fait, pour Spinoza, on pourrait dire rien de plus débile. Vous savez que ce proverbe qui dit « quand on veut, on peut ». Voilà. Le secret de la motivation, c'est donc d'abord de prendre le temps de la connaissance de soi, de prendre le temps de la connaissance des causes qui vont peser sur tel ou tel désir. Et plus on va les connaître, plus on pourra les faire jouer, les utiliser à son avantage et finalement parvenir à ses fins. Voilà, je répète donc, hein, les hommes sont conscients de leurs désirs, mais ignorants des causes qui les déterminent, nous dit Spinoza, et c'est ce que je vous conseille de méditer régulièrement pour traiter les problèmes de motivation. Ça vous rendra pas tout puissant, ça ne vous donnera pas une motivation à toute épreuve pour tout réussir, mais ça vous permettra de mieux vous connaître, et donc de savoir ce qui est à notre portée et ce qui nous échappera toujours. Parce que connaître les causes qui nous déterminent, connaître les facteurs qui pèsent sur nous, sur nos actions, c'est les comprendre, ne plus les subir, et finalement donc s'en libérer. Voilà, avec Spinoza, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on sait ce que l'on fait, pourquoi et comment on le fait. Et je vous promets que cette connaissance-là est une excellente motivation.
Et Philippe André a pris des notes pendant que vous nous administrez votre ordonnance, mon cher Thibault. Hein ?
Oui, je prenais des notes aussi sur l'exigence. Je me posais la question, enfin je me posais pas la question, je me faisais cette réflexion, c'est qu'en fait, si on veut non pas seulement de la motivation mais de la performance, il va falloir d'un côté valoriser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut aussi avoir, moi je suis toujours du côté des parents bien entendu, des parents qui vont être exigeants. Et c'est pas toujours facile, parce que avec nos enfants qui sont parfois retors, surtout lorsqu'ils arrivent au collège, ils vont avoir tendance à nous mettre un peu de côté et à essayer de se dire que l'école ou la scolarité, c'est leur domaine à eux.
L'ordonnance philosophique de Thibaut de Saint-Maurice, désormais le mercredi, à voir en vidéo hein, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. À suivre, quelques clés pour motiver les enfants et les adolescents à l'école. Si vous êtes enseignant, élève, parent, n'hésitez pas à partager vos réflexions et témoignages au 01 45 24 7000. Et voici l'un des titres qui a accompagné mon été.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Fallait te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
Avec autour de la table de gros fans d'Angèle. Angèle, balance ton quoi.
Allez, Lyra, t'allez, bats-toi.
Grand bien vous fasse.
Relève-toi, allez, relève-toi, vas-y. allez.
Bien, vas-y, mon chéri.
Sur France Inter.
C'est bien. Allez. Non.
10h43, comment motiver ses enfants à l'école? Au 01 45 24 7000.
Mais tu te dépêches, Elliot, hein? Parce que le cours de judo, c'est à 16h, ça te laisse une heure pour recoudre le kimono, c'est pas gagné, hein.
Mais maman, quand j'ai arrêté le foot, t'as rien dit.
Non, c'est vrai, j'ai rien dit. Et quand t'as arrêté la danse rythmique, j'ai rien dit non plus, hein. Et le hand, le poney, tout ça, j'ai rien dit. Mais là, tu vois, comment te dire. Trop, c'est trop, hein. J'en ai marre de payer des trimestres pour rien. Et dis donc, Tiffaine, hein, au fait, t'as réfléchi à ce que tu vas dire à la conseillère d'orientation? Allô? Pour ta liste de souhaits de l'après-bac?
Mais Christophe, il dit que ça sert à rien, de toute façon.
Mais qu'est-ce qu'il en sait, Christophe, hein? Il a planté sa prépa HEC et il est en psychosociaux, là.
Et alors?
Et alors? T'as entendu parler du chômage des jeunes, Tiffaine? Alors évidemment qu'on va aller voir ta conseillère d'orientation. Et toi, tu vas aller au judo, hein? Mais c'est pas possible, hein. Vous êtes mou, là. Faut vous secouer, hein. Vous êtes ectoplasmique.
Nouvel extrait de Fais pas ci, fais pas ça. J'espère que vos enfants ne sont pas ectoplasmiques, Thibaut de Saint-Maurice.
Bah, on essaye.
Alors, Philippe André, je rappelle que vous êtes consultant en management et motivation. Quelles sont, pour vous, les principales sources de démotivation?
Alors, il y en a une essentielle, c'est l'échec. Mais attention, pas n'importe quel échec. C'est l'échec lorsqu'il n'est pas expliqué. C'est-à-dire qu'un enfant qui a échoué, qui ne sait pas pourquoi il a échoué et comment faire pour ne pas échouer la prochaine fois, va commencer à se démotiver par rapport à un domaine. Bah parce que tout simplement, il se sent incapable de pouvoir réussir. Et ça, c'est extrêmement démotivant. Par contre, un échec expliqué, où on lui redonne des armes pour pouvoir repartir au combat, ça peut être au contraire très motivant.
Brigitte Pro, je rappelle que vous êtes psychopédagogue.
Oui, une des sources principales de motivation, c'est le fait qu'ils sont envahis par 1000 domaines, très sollicités, hyper consommateurs, ils sont ailleurs et du coup c'est toute la question de l'économie de l'attention là. Du coup, difficulté à être attentif plus de quelques minutes et pouvoir raccrocher à chaque fois, c'est très difficile pour eux et démotivant. Il y a le fait de ne pas maîtriser une méthode de travail. Didier Pleu en parlait, hein, c'est une génération qui a un seuil de tolérance à la frustration, à la contrainte très bas. Du coup, ils ont besoin d'apprendre la confrontation réel, la contrainte et entre autres la méthode, hein, en grec ça signifie le chemin, donc la méthode, tout ce qui est effectivement ce que Didier Pleu appelait discipline, hein, structure. Et puis une source de démotivation, c'est le fait de ne pas avoir de projet par rapport à l'orientation, donc vers quoi je vais, je ne sais pas.
Didier Pleu, je rappelle que vous êtes psychologue clinicien, ça vous parle évidemment ce que vient de dire Brigitte Pro?
Ah bah tout à fait, là je suis en parfait accord sur les propos qui sont repris. Oui, des motivations, moi je dis aussi que c'est souvent des enfants, les ados qui sont habitués à faire ce qu'ils veulent, qui sont dans un principe de plaisir, et effectivement le rôle des adultes et des enseignants c'est de travailler au principe de réalité. Donc effectivement, c'est toujours ces histoires pour les tout-petits. Est-ce qu'on peut, dès la maternelle, envisager la réalité avec des petits jeux de rôle, avec des dessins animés, avec des bandes dessinées, un peu comme le Milou ange blanc et le Milou diable qu'il y avait dans Tintin, pour montrer que c'est difficile entre le plaisir et la frustration. Et pour les ados, je répète, il faut surtout des adultes significatifs privilégiés qui s'engagent. Je parle bien surtout des ados qui ont du mal avec la frustration, des adultes qui s'engagent, qui contraignent, qui exigent et qui parlent bien sûr pour écouter en empathie qu'est-ce qui va pas, mais aussi qui ne réagissent pas, parce que dans tous les extraits qu'on a entendus, il y a beaucoup de parents qui sont en colère. Non, réagir, ça ne vaut rien émotionnellement, mais agir, c'est-à-dire exiger, contraindre les ados pour une hygiène de vie. En gros, faut plus de parents hein, pour les écrans, les véritables addictions qui démotivent un maximum. Là, c'est le grand problème numéro un, c'est mettre entre parenthèses les écrans pendant la scolarité, le soir pour le travail.
Et puis Philippe André, il faut faire très attention aux prophéties autoréalisatrices. À force de s'entendre dire qu'on est mauvais en maths, eh ben on devient mauvais en maths. Ce fut mon cas, par exemple.
Ah oui, ça c'est une de mes marottes, parce que les parents ont quand même tendance, dès le plus jeune âge, c'est incroyable, à classer leurs enfants dans une des deux catégories. Ces fameuses catégories qu'on a tous connues, qui sont t'es un matheux ou t'es un littéraire. Et à partir de ce moment-là, pendant des années, on va trouver normal s'il a des échecs en maths, puisque c'est un littéraire, ou normal qu'il ait des échecs en français, puisque c'est un matheux. Et on va fabriquer, c'est vraiment ça le cas, on va vraiment fabriquer un matheux ou un littéraire. Moi, je pense que tous les enfants peuvent réussir dans tous les domaines. Il suffit juste de leur donner la confiance en eux. On peut être à la fois passionné par les maths, passionné par le français, passionné par l'histoire, passionné par la géographie.
Alors le temps des solutions est arrivé. Brigitte Pro, comment on s'y prend pour aider un enfant, un adolescent à se motiver? Quelles sont pour vous les principales clés?
Alors les principales clés, c'est la question de la présence de l'adulte, c'est-à-dire ni trop là, ni pas assez là. Et la présence doit être effective. Cet été, nous avons entendu que les enfants, les adolescents, demandaient à leurs parents de se délester de leur smartphone quand ils leur parlaient ou quand ils les aidaient. Bon, là, la présence de l'adulte, ça n'est pas forcément une présence permanente, justement, mais qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait un véritable accompagnement. Une clé pour cette rentrée, c'est la communication entre parents et enseignants dès le début, que ça puisse effectivement se construire. Si tous les adultes vont dans le même sens, il y a un mot central pour leur motivation, c'est la cohérence. Ils veulent, enfin ils ont besoin de savoir ce qu'on attend d'eux concrètement. Et comme les attentes peuvent être fortes, j'accompagne beaucoup d'élèves dont le principal frein à la motivation, c'est le fait de craindre de ne pas pouvoir répondre aux attentes des adultes, par exemple. Du coup, cohérence entre les adultes, entre papa et maman, même discours sur le scolaire et même mise en place de rituels. Alors le mot devoir pour moi est désuet, en revanche entraînement, rituel d'entraînement, et c'est vraiment la confrontation réelle, c'est-à-dire sans entraînement, hein, on ne peut pas construire des apprentissages. En revanche, il s'agit évidemment de ne pas sombrer dans un délire éducatif dans lequel ben, tous les jours on travaillerait 3 heures, enfin, où on refait les cours le dimanche matin, enfin là ça devient évidemment trop. Donc l'équilibre entre ce qui se fait à l'école et ce qui se fait à la maison, et la présence juste des parents, et non pas envahissante ou bien très rare. Enfin, là, il y a deux extrêmes qui sont vraiment très démotivants.
Philippe André, quelles sont vos règles d'or pour accoucher d'une saine motivation chez les enfants?
Alors, si j'avais qu'une seule règle à donner aux parents, c'est de s'intéresser plus au comment qu'au combien. C'est-à-dire que les parents passent leur vie à essayer de remarquer ou de regarder les notes de leurs enfants, qu'ils s'occupent un peu plus de ce que font leurs enfants, de la façon dont ils préparent leurs cours. Les notes arriveront après. Moi, je dis, intéressez-vous au comment, les notes, le combien, ça arrivera après.
Le prof Thibaut de Saint-Maurice qui donne des notes.
Oui, et ça veut dire lisez les appréciations sur les copies, parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de passer longtemps à corriger une copie et d'écrire 5, 10, 15 lignes parfois sur la copie pour expliquer ce qui s'est passé dans la copie, et de voir l'élève qui dit « Ok, j'ai eu 10, j'ai eu 8 », et puis qui ne lit même pas l'appréciation, et les parents, pareil. Voilà, les appréciations.
Et puis Brigitte Prou, il faut accepter que la motivation, c'est changeant, un peu comme un ciel normand ou breton. C'est, voilà, des fois on est motivé, moins motivé. Il faut l'accepter, ça, quand on est parent ou enseignant.
Oui, très juste. Il s'agit que les parents et les enseignants n'attendent pas une motivation avec l'image à l'américaine, là, toujours sourire tous les matins, on est vraiment punché. En fait, c'est fluctuant car c'est humain. Et là, l'essentiel, s'il y a une période de démotivation, c'est de chercher ce qui freine. Donc d'écouter l'enfant, l'adolescent, qu'est-ce qui se passe pour lui. Il peut y avoir le pire comme quelque chose de complètement anecdotique derrière la phrase « j'aime pas l'école ». J'aime pas l'école, qu'est-ce qui se passe à l'école, Benjamin, pour que tu me dises ça? Je t'écoute. Qu'est-ce qui est si difficile à l'école? Et l'écoute, comme disait Didier Pleu tout à l'heure, c'est pas une écoute dans le vide, j'écoute. C'est qu'est-ce qu'on met en place et comment on agit à partir du moment où on a repéré le frein. Et là, le travail avec les enseignants est central.
Didier Pleu, pour vous, la clé essentielle pour motiver les élèves?
La clé essentielle, c'est de les aider à être dans le principe de réalité. Donc pour les tout-petits, je répète, c'est rejouer le réel difficile, frustrant, surtout en imagination. Et pour les ados, eh bien, c'est surtout aider les ados à lutter contre tout ce qui est parasite de la concentration, de la motivation, les écrans, bien sûr, véritable addiction. Vous savez, je terminerai par ce que me disait un adolescent récemment qui avait fait un séjour en pension. Il m'avait dit, en fait, ça serait bien que la pension, ça se passe à la maison. En fait, il voulait des devoirs, des habitudes, des obligations pour lui, parce qu'il savait qu'il n'y arrivait pas tout seul.
Brigitte Pro.
Oui, alors très intéressante cette question de la pension. Aujourd'hui, statistiquement, ce sont les adolescents qui demandent à leurs parents la possibilité d'aller en pension. Et leur premier argument, c'est « Ah là, madame, enfin j'aurai un cadre, je ne discuterai plus, on ne discutera plus. Je me lèverai à telle heure, je travaillerai à telle heure, je mangerai à telle heure. Oh, madame, là, je vais être libérée. »
Et Marina nous dit « J'ai créé l'association « Ce que je veux faire plus tard » en 2013 pour aider les jeunes à connaître leur motivation intrinsèque et prendre confiance en eux, les deux leviers indispensables pour être acteur de son avenir. Et puis un courriel nous dit, eh bien, il faut valoriser les réussites, quelles qu'elles soient, et développer l'envie. Allez, on écoute Nora Jones. Vous pouvez toujours nous appeler au 01 45 24 7000.
Ever thought that I know? Now the questions at my door, it's where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? Do you know to eat the words you wrote? I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Had a nation built on blood, find its way out of the mud. Where the people at the top lose their way enough to stop. Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again?
Norah Jones interprétait Begin Again.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebi.
Et encore une poignée de minutes pour vous délivrer quelques clés pour motiver vos enfants et vos petits-enfants. Bienvenue Nicolas.
Oui, bonjour.
Vous appelez de la Moselle, un département cher à Thibaut de Saint-Maurice. Vous y avez enseigné, n'est-ce pas, mon cher Thibaut?
Oui, deux ans à Metz.
Alors vous êtes enseignant également. Vous n'êtes pas croisé, non?
C'était il y a longtemps.
Nicolas, vous êtes enseignant. Alors comment vous y prenez-vous pour motiver vos élèves?
Ah ben, il y a toutes sortes de solutions. D'abord, je voudrais remercier toute l'équipe et France Inter pour l'ouverture et l'intelligence que vous diffusez.
Merci beaucoup.
Voilà, je suis un grand fan et je ne regrette pas.
Merci.
Alors, la motivation, pour moi, c'est très compliqué. Il n'y a pas toujours de solution, malheureusement. Et j'essaie déjà de créer un partenariat avec les parents. Mm-hmm. Parce que si les parents ne sont pas impliqués, à mon avis, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je vois systématiquement les parents. À chaque rentrée, pendant les deux premiers mois de la rentrée, après la réunion d'information collective. Et c'est très important, déjà, ça évite de stigmatiser les parents d'enfants en difficulté, mm-hmm. de voir tous les parents. Hein. Et puis, je me suis rendu compte que les parents d'enfants qui n'avaient pas forcément de difficultés pouvaient être très angoissés. Et donc, ça permet de les rassurer. Et souvent, on se rend compte qu'on a l'impression de ne pas parler des mêmes enfants.
Et pour vous, Nicolas, il est important de toujours faire ressortir les points positifs, c'est ça?
Ah oui, alors ça c'est essentiel. Dans le travail au quotidien, chaque fois que je vois un élève ou qui vient me voir avec son travail, je commence par faire ressortir les progrès et les points de réussite. Et ensuite, on peut voir les erreurs et tout de suite essayer de trouver le moyen de résoudre ces erreurs-là et de pas les renouveler.
Merci beaucoup Nicolas d'avoir appelé ce matin. Brigitte Pron, hein, il faut constamment questionner les élèves pour connaître leur motivation. Il faut les accoucher.
Alors en fait, c'est la maïeutique. C'est la maïeutique, exact. Du coup, on ne motive pas quelqu'un, mais on lui permet, on l'accompagne pour qu'il se motive.
Thibaut de Saint-Maurice, pour conclure.
Oui, et puis aussi une expérience, c'est-à-dire que il faut aussi que les adultes soient motivés eux-mêmes. Mmh. Et par exemple, un prof, qui passe la porte de sa classe en étant hyper motivé par son cours, par ce qu'il vient de dire, en étant hyper convaincu que le cours qu'il va faire, il est important pour eux. Bah, ça diffuse aussi un peu sous le mode de l'exemple, de la motivation.
Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci Brigitte Pro. Merci et Philippe Indré, la bibliographie est disponible sur le site de France Inter. Bah, demain, qu'est-ce qu'un bon prof en partenariat avec l'Obs? Dites-nous quels sont les professeurs qui vous ont enchanté et qui ont même changé votre vie. Demain, dès 9h au 01 45 24 7000. Et dès maintenant, sur la page Facebook de l'émission, pour ma part, j'adore. Adresserai un coup de chapeau à Madame Ruffier, Monsieur Santa Maria, Madame Bertrand, Madame Amalric, Madame Espougne, encore Madame Jarty, tous ces profs qui m'ont façonné. Et n'hésitez pas à appeler, 01 45 24 7000, demain dès 9h. Dans quelques instants, Nagui et sa bande originale.